بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Donc on continue la lecture du livre du Cheikh Abd al-Rahman al-Sa'di. الفصل الثاني, donc le deuxième chapitre. في ذكر الأمور التي مستمد منها الإيمان. Donc c'est la mention des choses à partir desquelles on puise la foi. وهذا فصل عظيم النفع والحاجة. Ça c'est un chapitre dont on a un grand besoin. بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا. Et plutôt les êtres humains ils sont contraints et ils ont un grand besoin de connaître ce chapitre et d'y prêter importance. وذلك أن الإيمان هو كمال العبد وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل. Puisque l'Iman, la foi, fait la perfection de la personne et c'est par cette foi que ses degrés s'élèvent ici-bas et dans l'au-delà et c'est la cause et le chemin par laquelle il arrive à tout bien ici-bas et dans l'au-delà. ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه. Et cela n'arrive, c'est-à-dire la foi, elle n'arrivera à la personne et elle ne se renforcera, elle ne se complétera que par la connaissance de ce dans quoi on la puise et de ses causes et de ses chemins. والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه. Et Allah a mis à toute chose qui est recherchée une cause et un chemin par laquelle on y arrive. والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها وقد جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقويه. Et la foi est la chose qui est la plus recherchée et la plus importante. Et donc Allah a mis de grandes causes et de grands moyens par lesquels on attire, c'est-à-dire on puise notre foi et on renforce notre foi. كما كان له أسباب تضعفه وتهينه ومواده التي تجلبه وتقويه أمران. Donc il dit aussi, elle a aussi des choses qui, des causes qui l'affaiblissent. ومواده التي تجلبه وتقويه أمران مجمل ومفصل. Et donc, les choses dans lesquelles on la puise et qui ramènent la foi et qui la renforcent sont de deux sortes, les choses globales et les choses citées en détail. أما المجمل فهو. Donc, quant aux choses globales, c'est-à-dire globalement de quoi on tire la foi, فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة. C'est le fait de réfléchir et de méditer sur les signes d'Allah qui sont récités, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. وَالتَأَمُّلُ لِآيَاتِهِ الْكَوْنِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا. Et le fait de méditer et de réfléchir sur les signes universels d'Allah, c'est-à-dire les signes dans sa création, c'est-à-dire avec toutes les catégories de signes universels que ça implique. وَالْحِرْصُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ الَّذِي خُلِقَ لَهُ الْعَبْدُ. Et le fait d'être assidu à connaître la vérité pour laquelle la personne a été créée. وَالْعَمَلُ بِالْحَقِّ. Et le fait d'agir conformément à la vérité et d'appliquer la vérité. فَجَمِيعُ الْأَسْبَابِ مَرْجِعُهَا إِلَى الْأَصْلِ الْعَظِيمِ. وَأَمَّا التَّفْصِيلُ فَالْإِيمَانُ يَحْصُلُ وَيَقْوَى بِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ. Et quant aux causes en détail, donc ça ce sont les causes globales, ça revient à tout ça, c'est-à-dire le fait de méditer et réfléchir sur les signes d'Allah. Et les signes d'Allah, ils se divisent en deux. Les signes religieux, donc c'est-à-dire la révélation, et les signes universels, c'est-à-dire la création. Et aussi le fait d'être assidu à l'apprentissage de la vérité et à l'application de la vérité. Ça revient à tout ça. C'est-à-dire dans quoi on puise notre foi. Et maintenant, il va citer en détail les nombreux points qui renforcent la foi. après que j'ai fini mon café, Inch'Allah. Donc il dit, donc maintenant il va citer un par un ces points. Il dit Minha bal a'avamuha ma'rifatu asma'illahi al-husna al-waridati fil kitab wa sunna wal-hirsu ala fahmi ma'aniha wa ta'abbudu lillahi biha. La première, il dit, c'est même la plus importante et la plus grande cause qui amène et qui renforce la foi, c'est la connaissance des noms d'Allah, des noms parfaits d'Allah qui ont été cités dans le Coran et dans la sunna, et d'être assidu et de chercher à comprendre leur signification et d'adorer Allah conformément à ses noms et à ses significations. فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ 99 اسْمًا 100 إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Donc comme il a été cité du prophète صلى الله عليه وسلم dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, qu'il a dit Allah a 99 noms sans moins un. Donc il a dit sans moins un pour bien préciser que c'est bien 99, celui qui les compte entre au paradis. Ay, donc maintenant il explique qu'est-ce que ça veut dire celui qui les compte. Ay, man hafidhaha wa fahima ma'aniha wa i'taqadaha wa ta'abbada lillah biha dakhala al-jannah. C'est-à-dire celui qui les mémorise, qui connaît ses noms et qui comprend leur signification et qui y croit, c'est-à-dire il va i'taqid, c'est-à-dire il croit à ses significations et les attribue à Allah, et qui adore Allah par ses noms. C'est-à-dire, il adore Allah conformément à ce qu'impliquent ses noms, alors celui-là, il rentre au paradis. وَالْجَنَّةُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ فَعُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ يَنْبُوعٍ وَمَدَّةٍ لِحُصُولِ الْإِيمَانِ وَقُوَّتِهِ وَثَبَاتِهِ. Or, n'entre au paradis que les croyants, que ceux qui ont la foi, et donc on connaît par ça que c'est la plus grande source de laquelle on puise la foi, et par laquelle elle se renforce, et par laquelle elle se raffermit. C'est la connaissance des noms et l'adoration d'Allah par ses noms. Donc ici, il ne détaille pas, mais qu'est-ce qu'il veut dire par l'adoration d'Allah par ses noms? Par exemple, la personne, elle sait qu'Allah, il est Samia. Donc elle sait, premièrement, Allah, il est Samia. Deuxièmement, le nom Samia, qu'est-ce qu'il signifie? C'est pas un nom comme ça, c'est pas juste des lettres. Il signifie celui qui entend. Donc, on doit croire qu'Allah, il a cet attribut qui est Samia, qui est prouvé par le nom Samia. Ensuite, on va adorer Allah. Donc là, on a connu le nom, on a cru au nom, puisqu'on a cru à sa signification. Et maintenant, on va adorer Allah selon ce qu'implique cette signification. C'est-à-dire qu'on va faire attention à ce qu'on dit, et on va éviter tous les interdits dans la parole. Et on va se taire au lieu de dire n'importe quoi, etc. Puisqu'on adore Allah conformément à ce nom. Donc c'est pareil pour tous les noms d'Allah. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est-à-dire pour qu'on comprenne mieux. Ensuite, il dit... ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان والإيمان يرجع إليها. Et la connaissance des noms d'Allah qui sont الحسنى, les noms d'Allah حسنى, ça veut dire les plus beaux ou les meilleurs. C'est la base de la foi et la foi retourne à cette base. ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة. Et la connaissance des noms d'Allah contient les trois catégories du tawhid, du monothéisme. أولا توحيد الربوبية, ثانيا توحيد الألوهية. C'est-à-dire premièrement le monothéisme dans Ar-Rububiyya. Ar-Rububiyya, c'est intraduisible, ils disent la seigneurie, c'est-à-dire en fait les attributs d'Allah qui sont la création, la possession et la gérance. Deuxièmement, le monothéisme dans Al-Ilahiyya, c'est-à-dire le droit à l'adoration. Et troisièmement, le tawhid, le monothéisme dans les noms et les attributs. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. Et ces trois catégories du tawhid sont روح الإيمان, c'est-à-dire la chose qui font vivre la foi et qui sont la substance de la foi. Et ce sont les bases de la foi. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوى يقينه. Donc plus la personne augmente dans sa connaissance des noms et des attributs d'Allah, plus il augmente dans sa foi et sa certitude, elle se renforce. فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُبْذِلَ مَقْدُورَهُ وَمُسْتَطَاعَهُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. Donc il convient aux croyants de déployer ses efforts et tout ce qu'il peut dans la connaissance des noms et des attributs d'Allah. وَتَكُونُ مَعْرِفَتُهُ سَالِمَةً مِنْ دَاءِ التَّعْطِيلِ. ومن داء التمثيل اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول. Et aussi, il faut que sa connaissance des noms et des attributs d'Allah, elle soit sainte et sauve de tout, de toute maladie du ta'til. Ta'til, c'est ce que ça veut dire ta'til. Dans la langue arabe, ta'til, c'est annuler quelque chose. Dans ce qui est voulu quand on parle des noms d'Allah, c'est, par exemple, on dit Allah, il est As-Sami' et on dit, moi, je ne crois pas qu'Allah, il est As-Sama'. Donc, il a fait ta'til. Il a renié l'attribut d'Allah qui est cité dans le Coran, qui est As-Sama. Ça, c'est ta'til. Et aussi de la maladie du tamthil. Le tamthil, c'est l'opposé. C'est-à-dire, dire que, dans l'exemple toujours de As-Sama, que l'ouïe d'Allah est comme l'ouïe des êtres humains. Ça, c'est tamthil. Donc, il faut éviter, dans la connaissance d'Allah, ces deux maladies par lesquelles ont été éprouvés beaucoup des gens de l'innovation qui ont contredit et qui ont divergé de ce par quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. Mais plutôt cette connaissance dans les noms et des attributs, elle doit être puisée du Coran et de la Sunna et de ce qui a été rapporté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la génération qui les ont suivis et de ceux qui les ont suivis ces générations-là sur la droiture. Donc, c'est encore une parenthèse pour un petit peu développer, c'est-à-dire il faut, cette science des noms et des attributs d'Allah, elle se puise du Coran, de la Sunna et des paroles des salafs, et non pas à partir des paroles des philosophes ou des gens de la spéculation, Ahlul Kalam, les gens de l'innovation donc, qui ont ramené des paroles et des raisonnements dans ce sujet qui n'existaient pas à l'époque des salafs et par lesquels ils sont arrivés à des résultats autres que les résultats auxquels étaient arrivés les salafs, dans la plupart des noms et des attributs d'Allah. Donc notre connaissance d'Allah, comment on croit au nom et aux attributs d'Allah, on y croit comme c'est cité simplement dans le Coran, dans les hadiths, et comme y croyaient les sahaba. Donc on revient aussi aux paroles des sahaba et aux paroles des imams des trois premiers siècles de l'islam. هذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه وطمأنينة في أحواله. Donc voilà la connaissance bénéfique par laquelle la personne augmente sans cesse dans sa foi et dans la force de sa certitude et augmente aussi dans la sérénité dans toutes ces situations. ومنها تدبر القرآن على وجه العموم فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا. Donc le deuxième point à partir duquel on puise et on renforce notre foi, c'est la méditation du Coran de façon globale, c'est-à-dire que celui qui médite et qui réfléchit sur le Coran ne cesse de profiter des sciences coraniques et des connaissances coraniques, et par cela, il augmente dans sa foi. كما قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Comme Allah a dit au début de sourate Al-Anfal, quand il a parlé des croyants, il a dit lorsque leur sont lus ces versets, c'est-à-dire les versets d'Allah, ça augmente leur foi et ils font confiance à leur Dieu. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف تيقن أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه التناقض والاختلاف أمورا لوجد فيه من التناقض والاختلاف أمورا كثيرة. Donc aussi, c'est que lorsque la personne regarde le Coran et réfléchit sur le Coran, elle trouve que le Coran il est munazzam. Munazzam, c'est-à-dire il est entre guillemets organisé. Il est perfectionné. Il n'y a pas de faute dedans, il n'y a pas d'erreur. Et que le Coran, les différents morceaux du Coran ne se contredisent pas les uns les autres. Et alors à ce moment-là, et que dans le Coran il n'y a pas de contradiction. Quand il va voir ça, il va être convaincu que ça a été descendu de la part d'Allah Azza wa Jal. Et aussi que, puisque si ce Coran il venait d'autre qu'Allah, il y aurait trouvé beaucoup de divergences et beaucoup de contradictions. قَالَ تَعَالَى أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Comme il est dit dans Sourate An-Nisa, ne méditent-ils pas sur le Coran, et s'il venait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مُقَوِّيَاتِ الْإِيمَانِ. Et ça fait partie des plus plus grande chose qui renforce la foi, et ça la renforce de plusieurs parts. فالمؤمنو بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما ركب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كبير فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره. Il dit aussi, le croyant, par le simple fait qu'il récite les versets d'Allah et qu'il comprend et qu'il connaît comment, c'est-à-dire il voit les informations qui sont dans le Coran, les récits qui sont dans le Coran et les règles parfaites qui sont dans le Coran. C'est-à-dire ici, il attire notre attention sur le fait que le Coran, il est composé soit d'informations, akhbar, soit de ahkam, de règles. Donc il va voir les akhbar dans le Coran, c'est-à-dire ces informations, elles sont véridiques et ces règles, elles sont parfaites. Alors, il va bénéficier beaucoup de choses de la foi, c'est-à-dire il va bénéficier de beaucoup de biens parmi les différents fruits de la foi. Alors, ça c'est simplement quand il le lit. Alors, qu'en est-il si en plus il se perfectionne et il réfléchit bien et il médite bien sur le Coran et il comprend ce qui est voulu et les secrets du Coran. ولهذا كان المؤمنون الكمل يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. Et c'est pour ça que les croyants complets disent « Oh Allah, comme Allah a cité dans le Coran, nous avons entendu quelqu'un qui appelle à la foi et qui nous a dit « Croyez à votre Seigneur, ayez foi en votre Seigneur » et nous avons eu la foi. » وكذلك معرفة أحاديث النبي. Aussi, il faut comprendre que ça, c'est-à-dire comment on va réfléchir sur le Coran et comment on va, à la limite, on peut lire le Coran, on peut lire à peu près la traduction et profiter un peu des sens du Coran, mais on va vraiment profiter du Coran que si on comprend la langue du Coran. Celui qui ne comprend pas la langue du Coran, c'est comme pour quoi que ce soit qu'on lit. On ne va pas profiter d'une lecture si on ne connaît pas la langue de ce qu'on est en train de lire. Donc c'est encore plus vrai pour la parole d'Allah Azzawajal. Si on veut tirer la foi et tous les bénéfices et tous les fruits du Coran, comprendre comme il dit ici les secrets et ce qui est voulu dans le Coran, il faut comprendre la langue arabe dans laquelle le Coran est descendu. وكذلك معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله كلها من محصلات الإيمان ومقوياته. Il dit aussi la connaissance des hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم et tout ce que ça contient comme science relative à la foi et comme action relative à la foi, tout ça, ça ramène à la personne la foi et ça renforce sa foi. فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله ازداد إيمانه ويقينه وقد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين. Donc plus la personne prend connaissance du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus sa foi et sa certitude vont augmenter, à tel point que sa science peut arriver au point et sa foi peut arriver au point de la certitude. فقد وصف الله الراسخين في العلم الذين حصل لهم العلم التام القوي الذي يدفع الشبهات والريب ويوجب اليقين التام. Allah il a cité الراسخين في العلم, c'est-à-dire ceux qui sont ancrés dans la science, comme étant des gens qui ont reçu une foi, une science complète et une science ferme qui repousse الشبهات, c'est-à-dire qui repousse les doutes et qui repousse les faux arguments et qui leur oblige la certitude complète. ولهذا كانوا سادة المؤمنين الذين استشهد الله بهم واحتج بهم على غيرهم من المرتابين والجاحدين. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus les meilleurs des croyants par lesquels Allah, qu'Allah a pris comme témoin et qu'il a pris comme argument contre les autres êtres humains parmi ceux qui doutent et ceux qui renient. Donc comme il va citer ici, كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Donc dans le verset au début de Sourate Al-Imran, c'est lui qui a descendu sur toi le livre, parmi ces versets, certains sont muhkamat, c'est-à-dire elles sont claires, elles sont Ummul Kitab, si on traduit littéralement, ça veut dire la mère du livre. Mais le mot en arabe, c'est plus que ça, ça veut dire une chose à laquelle tu reviens, le centre de quelque chose, c'est-à-dire elles sont la partie principale du livre. Wa ukharu mutashabihat, et d'autres qui sont mutashabihat, c'est-à-dire elles sont ambigu parmi les versets d'Allah. Donc il dit au début du verset, c'est lui qui a descendu sur toi le livre, parmi ces versets certains sont clairs et d'autres sont ambigus. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ibtira al-fitnati wa ibtira al-ta'wilihi. Quant à ceux qui ont un doute dans leur cœur, alors ils suivent ce qui est ambigu du livre en cherchant la fitna, c'est-à-dire le trouble, ou le fitna, vous comprenez ce que ça veut dire, et en cherchant ta'wilihi, en cherchant son ta'wil ici, c'est-à-dire soit c'est tahrif, c'est-à-dire à le détourner de son sens, soit le ta'wil dans le sens, il cherche la réalité concrète de la chose. Comme par exemple, en ce qui concerne les attributs d'Allah, il voudrait savoir comment ils sont. Alors que Allah, nous, on profite du livre que leur signification. On ne peut pas savoir comment ils sont, on ne l'a pas vu. Donc ta'wil ici, parce qu'il faut savoir que ce verset, on peut le comprendre. Ta'wil, il peut avoir le sens de changer changer le sens de la chose, tahrif, ou alors il peut avoir le sens de ta'wil dans le sens de la réalisation de la chose. Donc c'est-à-dire ici, Allah, il les blâme en disant que eux ils cherchent à ta'wil. Ils cherchent sur l'interprétation du livre, ou à déformer le sens du livre en revenant au verset ambigu. Or, ne connaît son ta'wil qu'Allah. C'est-à-dire, il n'y a qu'Allah qui connaît son ta'wil. C'est-à-dire, il n'y a qu'Allah qui connaît si on se rapporte au verset qui parle du paradis, ou qui parle des attributs d'Allah, ou qui parle du jugement dernier, ici le ta'wil, c'est-à-dire sa réalisation. Il n'y a qu'Allah qui connaît le comment. Comment est le paradis, comment est l'enfer, puisque les êtres humains ne l'ont pas vu. Qui connaît comment est le jour du jugement dernier, comment sont ses attributs. Nous, on en a eu information, on connaît leur signification, mais le comment, on ne les a pas vus. Mais aussi, certains interprétateurs ou certains lecteurs du Coran, parmi les salafs, ils ne lisaient pas le verset comme ça. Ils lisaient, et nul ne connaît son ta'wil, donc son interprétation, sauf Allah, wal-rasikhuna fil 'ilm. Il continue dans le verset et il s'arrête. Donc il y a deux façons de lire le verset. Soit on dit, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, nul ne connaît son interprétation, sauf Allah. Ou alors on dit, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, wal-rasikhuna fil 'ilm. Nul ne connaît son interprétation, sauf Allah, et ceux qui sont ancrés dans la science. On va revenir à ça après. Donc la suite du verset dit, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Et ceux qui sont ancrés dans la science disent, nous y croyons. كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Tout vient de notre Seigneur. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Et ne se rappellent que les gens dotés d'intelligence. Donc en fait, c'est difficile de traduire ce verset par rapport à ce que je viens de vous dire. Parce qu'en fait, ce verset, ça c'est une parenthèse de ma part, et il est important pour comprendre, c'est-à-dire c'est un verset important par rapport aux innovations, par rapport aux shubuhat, etc. Al-ta'wil, si on revient à la signification de ta'wil, ta'wil il peut avoir le sens de interprétation. C'est-à-dire, je te dis, le verset il veut dire ça, sans le détourner de son sens. Je vais donner des synonymes. Comme l'imam al-Tabari, par exemple, comment il a appelé son livre de tafsir, il l'a appelé Jami' al-Bayan fi ta'wili ayy al-Qur'an. C'est-à-dire un livre sur ta'wil, c'est-à-dire tafsir. Ça, c'est une façon d'employer le mot ta'wil qui est venu plus tardivement. Il y a une autre ta'wil qui est plus citée dans le Coran. Quand vous lisez le mot ta'wil dans le Coran, ce qui est voulu, c'est la réalisation de la chose. Comme quand Allah dit à propos du Coran, وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ. Il ne leur est pas encore venu son ta'wil du Coran. Qu'est-ce qu'il veut dire par ta'wil ici ? La réalisation de ce qui est cité dans le Coran. C'est-à-dire le jour du jugement ne leur est pas encore venu. L'enfer ne leur est pas encore venu. Ou alors c'est comme quand Youssouf, quand vous connaissez l'histoire, quand il a vu son père, sa mère et ses frères, ils se sont prosternés devant lui. C'était quoi ? C'était la réalisation de la vision qu'il avait eue en rêve. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Ta'wilu ru'yaya min qabl ». Ta'wil ici, ça ne veut pas dire « tafsir ». Ça veut dire « c'est la réalisation de ma vision que j'ai eue auparavant ». Donc des fois, « ta'wil » n'a rien à voir avec « tafsir ».« Ta'wil », ça veut dire « la réalisation de la chose ». Comme « tahqiq », on va dire. Ou alors « iqa ». Donc en fait, si on comprend le mot ta'wil ici comme ça, on va dire wa ma ya'lamu ta'wilahu, est-ce qu'on va dire illallah wa rasikhuna fil 'ilm, ou alors illallah, c'est-à-dire ne connaît son ta'wil que Allah, ou est-ce qu'on va dire ne connaît son ta'wil que Allah et les dotés de science? C'est lequel? On va s'arrêter où? À Allah, puisque il y a qu'Allah qui connaît la réalisation de ce qui est cité dans le Coran, c'est-à-dire Allah il nous parle du paradis, il nous dit qu'il y a des fruits, qu'il y a des fleuves, mais on ne sait pas comment ils sont. puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a bien dit que au paradis il y a des choses que l'œil n'a pas vues et l'être humain il s'est même pas imaginé. Et comme Ibn Abbas il disait, entre ce qu'il y a au paradis et ce qu'il y a sur terre n'est en commun que le nom. C'est-à-dire ici on a du miel, au paradis il y a du miel. Mais ici le miel, il faut l'extraire de l'abeille. Des fois il peut être un petit peu amer ou trop sucré. Alors qu'au paradis c'est des fleuves. Sans qu'il y ait d'abeille, il y a du miel qui coule en grande quantité. Et le goût il est parfait. Donc c'est un miel et c'est un miel. Mais le miel il est différent. Nous on ne peut pas se l'imaginer, on ne l'a pas vu. Donc ça c'est le ta'wil. Ou alors le ta'wil dans le jour du jugement. C'est-à-dire l'enfer, on sait qu'il y aura la balance, on sait qu'il y aura le paradis. L'enfer, les anges, ça on le sait, on y croit, mais on les a pas vus. Le ta'wil, dans le sens, la réalisation, elle n'est pas encore arrivée. Ça sera au jour du jugement. Donc on peut aussi, ça c'est aussi dans les noms et les attributs d'Allah. On sait qu'Allah il a deux mains, on sait qu'Allah il s'est établi sur son trône, on sait qu'Allah il descendra pour juger entre ses serviteurs, etc. Mais comment il va faire ça? Comment sont les mains d'Allah? On ne sait pas. Donc là, le ta'wil, il peut avoir ce sens-là, la réalisation de la chose. Donc à ce moment-là, on va dire, nul ne connaît son ta'wil sauf Allah. Et certains salafs, ils s'arrêtaient au mot Allah dans le verset. D'autres salafs, ils disaient, nul ne connaît son ta'wil sauf Allah et ceux qui sont ancrés dans la science. Donc le ta'wil, il a un autre sens. Le ta'wil, ce qu'il voudra dire ici, c'est que parmi les versets, comme il est dans le verset, parmi les versets d'Allah, il y en a qui sont clairs et d'autres qui sont ambigus. Mais c'est ambigu, on dit hadha amrun nisbi, ça c'est quelque chose de relatif. C'est-à-dire c'est ambigu pour ceux qui n'ont pas appris, pour ceux qui n'ont pas eu la science. Donc ça reste ambigu pour eux. Je vous donne un exemple. Allah il dit dans le Coran, dans plein de versets, il nous dit Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa, Allah il s'est établi sur son trône. Dans un autre verset, il nous dit « A'amintum man fissama » Il se décrit comme étant « fissama », c'est-à-dire au-dessus du ciel. Dans un autre verset, il se décrit comme étant « comme quoi les actes remontent vers lui » ou « comme quoi les anges descendent de vers lui ». Donc tout ça, c'est des versets clairs, « muhkamat » comme quoi Allah, il est au-dessus. Et dans deux versets, Allah, il nous dit « wa huwa ma'akum » et dans un autre verset « wa huwa ma'ahum » Il est avec vous. Donc les versets clairs, ils nous disent qu'Allah il est au-dessus des sept cieux. Et il y a un autre verset qui nous dit, il est avec vous. Donc pour certaines personnes, ce verset va être mutashabi. C'est-à-dire ils vont comprendre une contradiction entre il est avec vous et il est au-dessus des sept cieux. Mais c'est quoi le muhkem? Le muhkem c'est il est au-dessus des sept cieux. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de versets qui le disent. Et ils le disent d'une façon qui ne peut pas être un majaz, ça ne peut pas être une métaphore, la façon dont c'est dit. Et c'est tellement insisté, et en plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans plein de ses hadiths, il a insisté sur ce sens qu'Allah il est au-dessus des sept cieux. Et as-salaf, as-sahaba, ils ont insisté aussi sur ça. Donc si toi, tu comprends une contradiction entre le verset qui dit Allah est avec vous, et le verset qui dit qu'Allah est au-dessus des sept cieux, donc là on a un muhkem, le verset clair, et on a un mutashabi, un ambigu. Mais il est ambigu pour qui? Ça c'est quelque chose de relatif, il est ambigu pour toi. Alors que ceux qui se sont ancrés dans la science, c'est-à-dire qui ont appris, eux il n'y a plus d'ambigu. Puisqu'ils comprennent ce que ça veut dire Allah est avec vous. Ça veut dire, comme ils ont dit beaucoup de salafs, notamment l'imam Ahmed, ma'ahum bi'ilmihi, il est avec vous par sa science. C'est-à-dire il vous entoure de sa science, il connaît tous vos états, il connaît ce que vous faites, etc. Donc, c'est ça le sens de il est avec vous. Donc dans ce sens-là, on peut lire le verset, nul ne connaît son ta'wil sauf Allah et ceux qui sont ancrés dans la science. Donc le ta'wil ici, ça voudra dire son sens, son interprétation. Donc voilà les deux façons de lire le verset. Et est-ce qu'en vérité une contredit l'autre? Est-ce qu'on est obligé d'en jeter une des deux? Non. Ça c'est un verset, subhanallah, on peut le lire des deux façons et les deux elles ont un sens parfait. Donc ça c'est une faïda, c'est pas écrit dans le livre, ça c'est moi qui vous le rajoute. Celui qui veut lire ça, il peut regarder dans, par exemple, dans Muqaddimat al-Tafsir. C'est un petit livre, c'est pas grand, mais c'est en arabe. De Ibn Taymiyyah, il explique ça, les diverses significations du mot ta'wil dans la langue arabe ou dans les textes religieux. Ou alors il peut regarder aussi dans Sawa'iq al-Mursala, ça par contre c'est un livre plus gros, mais il y a un passage sur ça d'Ibn al-Qayyim, il va parler du ta'wil. Donc en tout cas j'étais obligé de vous expliquer ça pour traduire le verset, sinon je l'aurais traduit de façon vite fait, on n'aurait pas eu cette faïda. Donc il dit Farrasikhun. En fait, ce qui est voulu ici, c'est que Allah, il a pris à témoin, il a vanté ceux qui sont ancrés dans la science par rapport à ceux qui doutent et qui cherchent la déviation.
فالراسخون زال عنهم الجهل والريب وأنواع الشبهات ورد المتشابه من الآيات إلى المحكم منها.
Donc ceux qui sont ancrés dans la science, l'ignorance et le doute se sont élevés d'eux, c'est-à-dire elles sont parties, et toutes les sortes de shubuhat, c'est-à-dire de faux arguments et de doutes. Et ils ont renvoyé les versets ambigus aux versets qui sont clairs. Donc ça, c'est la voie de ceux qui sont ancrés dans la science. Quand un verset il est ambigu, et comme je vous ai dit, l'aspect ambigu d'un verset, ça c'est relatif. Ça veut dire, je ne peux pas prendre un verset du Coran et vous dire, ça c'est un verset ambigu. Parce que la personne, elle veut dire, non, pour moi il n'est pas ambigu, j'ai très bien compris. Ça veut dire ambigu pour certains, pour ceux qui n'ont pas compris ou pour ceux qui n'ont pas appris. Mais sinon, tous les versets d'Allah, ils sont muhkam. Ils sont clairs et ils ont un sens parfait. Mais certains d'entre eux, relativement à certaines personnes, sont ambigus. C'est ça qu'il faut comprendre. Sinon, tous les versets d'Allah, ils sont muhkam. Ils sont clairs et ils sont parfaits. Donc, les gens de science, eux, quand ils ont un verset qui leur semble ambigu, ils le comprennent à la lumière des versets qui sont clairs. Pour donner un autre exemple encore. Par exemple, quelqu'un, ça m'est déjà arrivé qu'on m'en parle. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça arrive qu'il y ait des personnes qui se posent la question. Allah, il dit dans le Coran, dans surat At-Tin par exemple, Inna khalaqna al-insan. Nous avons créé l'être humain. C'est-à-dire, Allah, il parle de lui-même au pluriel. Donc, et dans plein de versets, Allah, il nous dit qu'il est seul. Qul huwa Allahu ahad, etc. C'est-à-dire tous les versets où Allah nous dit « Wa ilahukum ilahun wahid » et « Votre Dieu est un Dieu unique » dit « Allah est unique » c'est-à-dire tout le Coran, il nous dit qu'Allah il est unique. Et dans certains versets, Allah il parle de lui-même au pluriel. Donc est-ce que pour toi c'est ambigu? Pour plein de gens, ça c'est pas ambigu parce qu'ils savent ce que ça veut dire quand Allah il dit « Nahnu » il dit « Nous ». Mais peut-être pour certaines personnes ça va être ambigu. Ils voient une contradiction entre ça et ça. Ils voient une contradiction entre le fait qu'Allah il parle en disant « Nous » et le fait qu'Allah il dit qu'il est unique. Donc lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Les versets qui sont clairs, bien sûr, sont tous les versets où Allah il dit qu'il est unique. Donc il doit comprendre ces versets qui sont ambigus pour lui. On ne peut pas dire qu'ils sont ambigus de façon absolue, puisque pour certains, ils ne sont pas ambigus. Ils sont ambigus pour lui, il doit les comprendre à la lumière des versets qui sont clairs. C'est-à-dire, en aucun cas, il peut en comprendre qu'Allah il est pluriel ou qu'il n'est pas unique. Il sait, grâce à tous les versets qui sont clairs, qu'Allah il est unique. Donc de là, il va chercher à comprendre les versets où Allah il dit « nous ». Mais en fait, quand il va chercher, il va lire par exemple un livre de tafsir, tout simplement c'est de la langue arabe. C'est-à-dire la personne, même un être humain, par exemple un président ou un roi, s'il parle et il veut se glorifier, il va dire « nahnu ». Il dit oh, « nous avons fait ça, nous avons fait ça ». Donc Allah qui est le créateur de les cieux et de la terre, qui est « al-azim », qui est « al-azizul hakim », il dit « nous ». Ça ne veut pas dire qu'il est pluriel. Pour comprendre, c'est comme en français, des fois tu parles à une personne, elle est unique, et tu lui dis « vous ». Pourtant, est-ce qu'ils sont plusieurs? Ils ne sont pas plusieurs. C'est par quoi? C'est par respect. Dans l'arabe aussi, ça existe, pour celui qui parle, il dit « nahnu ». Il ne dit pas « je », il dit « nous ». Donc tout simplement, c'est ça. Ça, c'est une parenthèse. Pour comprendre encore, c'est quoi? « Al-muhkam » et « al-mutashabi ». Donc il dit « waqalu amanna bil-jami'a ». Donc ces gens-là qui sont ancrés dans la science, ils disent « nous croyons à tout le Coran ». فكلها من عند الله. Tous ces versets viennent d'Allah. وما منه وما تكلم به وحكم به كله حق وصدق. Et donc tout ce qui vient d'Allah et tout ce qu'Allah a prononcé et tout ce qu'Allah a décrété, tout ça c'est la vérité. Et donc ça ne peut pas se contredire. وقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Et dans un autre verset il est dit: cependant, ceux qui sont ancrés dans la science parmi eux et les croyants croient, ou plutôt pour bien traduire, on va dire on foi à ce qui a été descendu sur toi et ce qui a été descendu à ceux d'avant toi. وَقَالَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et dans un autre verset, Allah dit: Allah témoigne qu'il n'est de Dieu, de vrai Dieu, que lui, ainsi que les anges et ceux qui ont la science. Qa'iman bil Christ, ça je ne saurais pas traduire. La ilaha illahu al-Azizul Hakim. Il n'est de vraie divinité que lui, al-Azizul Hakim.
ولعلمهم بالقرآن العلم التام وإيمانهم الصحيح استشهد بهم في الدنيا والآخرة.
Donc parce qu'ils ont eu cette foi, pardon, parce qu'ils ont eu cette science du Coran, qui est une science complète, et par leur foi véridique, Allah les a pris comme témoins ici-bas et dans l'au-delà, puisqu'il a dit qu'Allah atteste ainsi que les anges et les gens de science.
كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث.
Et aussi dans un adversaire, Allah dit, et ceux qui ont eu la foi et la science disent, vous êtes restés, conformément à ce qu'Allah a écrit, jusqu'au jour du jugement. Ça c'est quand ? Ça c'est au jour du jugement. Quand les koufars, les mécréants, ils vont se demander combien de temps ils sont restés, et Allah il va prendre à témoin les gens de science et de foi, et c'est eux qui vont parler, ils vont dire, vous êtes restés, conformément à ce qu'Allah a décrété, jusqu'au jour du jugement.
وأخبر تعالى في عدة آيات أن القرآن آيات للمؤمنين وآيات للموقنين.
Et dans plusieurs versets, Allah nous informe que le Coran il est composé de signes pour ceux qui croient et des signes pour ceux qui ont la certitude.
لأنه يحصل لهم بتلاوته وتدبره من العلم واليقين والإيمان بحسب ما فتح الله عليهم منه فلا يزالون يزدادون علما وإيمانا ويقينا.
Puisque par la simple fin, le fait qu'ils lisent le Coran et qu'ils méditent sur le Coran, ils acquièrent une science et une certitude et une foi selon ce qu'Allah voudra bien leur accorder. Donc ils ne cessent d'augmenter dans la foi, la science et la certitude par la méditation du Coran.
فالتدبر للقرآن من أعظم الطرق والوسائل الجالبة للإيمان والمقوية له.
Donc le fait de méditer sur le Coran fait partie des plus grandes causes et des plus grands chemins qui amènent la foi et qui renforce la foi.
قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فاستخراج بركة القرآن هي التي من أهمها حصول الإيمان. فاستخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيله وطريقه تدبر آياته وتأملها كما ذكر أن تدبره يوقف الجاحد عن جحوده ويمنع المعتدي على الدين من اعتدائه.
Donc le fait de le c'est-à-dire la baraka, Allah il cite le Coran dans ce verset comme étant un livre mubarak. Mubarak ça veut dire béni, dans lequel il y a le khair, il y a la baraka, il y a le bien et la bénédiction. Il dit donc pour sortir cette baraka du Coran et bénéficier de cette baraka et du bien qu'il y a dans le Coran, eh bien il faut la foi. Et parmi les chemins de la foi, il y a le fait de réfléchir sur les versets d'Allah et de méditer sur ces versets. Et le fait de méditer sur les versets fait cesser la personne qui renie les versets. C'est-à-dire si elle réfléchit, elle va cesser de renier aux versets. Et elle va empêcher la personne qui veut transgresser contre la religion de transgresser. C'est-à-dire elle amène la foi à la personne.
وقال تعالى أفلم يدبروا القول أي فلو تدبروه حق تدبره لمنعهم مما هم عليه من الكفر والتكذيب وأوجب لهم الإيمان واتباع من جاء به.
Aussi dans un autre verset, il est dit, ne méditent-ils pas sur la parole, c'est-à-dire sur le Coran, c'est-à-dire que s'ils avaient médité sur le Coran comme il le convient, ça leur aurait empêché de mécroire et de démentir le Coran. Et ça leur aurait obligé de croire et d'avoir la foi et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Wa qala ta'ala bal kadhabu bima lam yuhitu bi'ilmi. Ay falaw hasala lahum al-ihata bi'ilmihi lamana'ahum min at-takdhib wa awjaba lahum al-iman.
Et dans un autre verset Allah dit, plutôt ils ont démenti ce qu'ils n'ont pas englobé de leur science. C'est-à-dire, si ils avaient englobé de leur science ce Coran, ça leur aurait empêché de démentir. Et ça les aurait forcé à croire. C'est-à-dire, celui qui aurait appris et médité comme il se convient sur le Coran, il n'aurait pas pu après ça mécroire et démentir le Coran.
ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة.
Parmi les chemins aussi qui permettent d'acquérir la foi, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de ses comportements et de ses grandes qualités.
فَإِنَّ مَنْ عَرَفَهُ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ لَمْ يَرْتَبْ فِي صِدْقِهِ وَصَدَّقَ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَالدِّينِ الْحَقِّ.
Et celui qui connaît le prophète comme il se convient, il ne doutera pas
dans sa véracité, dans le fait qu'il ne ment pas, et il croira à tout ce qu'il a ramené, c'est-à-dire le Coran et la Sunna.
كما قال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أي فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن يؤمن وزيادة الإيمان ممن آمن به.
Et il est dit dans Sourate Al-Mu'minun, ne connaissent-ils pas leur messager, ou plutôt ils le démentent. C'est-à-dire Allah il a pris comme argument, est-ce que vous ne le connaissez pas?
Donc Cheikh il dit ici, c'est-à-dire que la connaissance du messager sallallahu alayhi wa sallam impose à la personne d'y croire si elle n'y croyait pas, et impose à celui qui y croit déjà d'augmenter dans sa foi.
وقال تعالى حثا لهم على تدبر احوال الرسول الداعية للايمان قل انما اعيذكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
Et aussi Allah il a appelé et il a encouragé les gens à réfléchir et à méditer sur ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a appelé à la foi en disant, dis, je vous exhorte à une seule chose, que vous vous leviez pour Allah par deux ou seul, c'est-à-dire soit seul ou soit entre vous, et qu'ensuite vous réfléchissiez, c'est-à-dire à propos de ce messager. Votre compagnon, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas fou, plutôt c'est un avertisseur pour vous avant un châtiment douloureux. C'est-à-dire dans ce verset, Allah il a appelé les gens à réfléchir sur ce prophète, puisque les gens de la Mecque qui ont démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le connaissaient. Et ils connaissaient comment il était avant la prophétie, et que c'est quelqu'un qui ne mentait pas.
Et il ne s'asseyait même pas avec les jeunes de Quraysh quand il était adolescent pour jouer.
Et c'est-à-dire il était toujours détourné de toutes les distractions. Il n'a jamais gorgé pour autre qu'Allah, il n'a jamais bu de l'alcool. Il était connu pour l'amana, pour rendre l'amana, pour dire la vérité, etc. Donc Allah ici les a appelés à réfléchir sur ce prophète, à réfléchir sincèrement, pour les pousser à la foi.
وَأَقْسَمَ تَعَالَى بِكَمَالِ هَذَا الرَّسُولِ وَعَظَمَةِ أَخْلَاقِهِ وَأَنَّهُ أَكْمَلُ مَخْلُوقٍ بِقَوْلِهِ نُونَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.
Et Allah il a juré de la perfection de ce messager et de la grandeur de ses caractères et de ses comportements, et qu'il est la plus complète de ses créatures. Comme Allah a dit, Nun, par la plume et ce qu'ils écrivent, c'est-à-dire je jure, ou Al-Qalam, je jure par la plume et ce qu'ils écrivent, par le bienfait de ton Seigneur, tu n'es pas fou, et tu auras une récompense, Ghayra Mamnoun, qui n'est pas Mamnoun, je ne sais pas le traduire, et tu es certes sur un grand comportement, Khuluqin Azim. Khuluq, c'est-à-dire le comportement, la façon dont il se comporte et ses caractéristiques. Donc, c'est-à-dire, tu es certes sur un grand comportement.
Fahuwa sallallahu alayhi wa sallam akbaru da'in lil-iman fi awsafihi al-hamida wa shama'ilihi al-jamila wa aqwalihi al-sadiqa al-nafi'a wa af'alihi al-rashida fahuwa al-imam al-a'zam wal-qudwatu al-akmal.
Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un qui appelle le plus akbaru da'in lil-iman, c'est-à-dire, c'est le plus grand appeleur et le plus grand prêcheur à la foi, par ses caractéristiques louables et par ses bons caractères et par ses paroles véridiques et utiles et par ses actes qui sont des actes rachida, c'est-à-dire des actes, des bons actes rachida, c'est-à-dire des actes de vérité. Donc c'est le plus grand imam, c'est-à-dire c'est le plus grand guide et c'est l'exemple parfait.
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ,
comme il est dit dans le verset, il y a certes pour vous dans le messager d'Allah un bon exemple.
وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
Et dans l'autre verset, ce que le messager vous ramène, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en.
وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ عَنْ أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ هُمْ خَوَاصُ الْخَلْقِ أَنَّهُمْ قَالُوا رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا وَهُوَ هَذَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ ينادي للإيمان بقوله وخلقه وعمله ودينه وجميع أحواله فآمنا أي إيمانا لا يدخله ريب.
Et Allah aussi il a mentionné les gens dotés d'intelligence dans le Coran quand ils ont dit, oh Allah, nous avons entendu quelqu'un qui appelle, c'est-à-dire c'est le messager d'Allah qui appelle à la foi, c'est-à-dire, Cheikh dit, c'est-à-dire par ses paroles, par son comportement
par ses actes, par sa religion et par tout ce qu'il fait. Fa'amanna. Et donc nous avons cru, c'est-à-dire d'une croyance et d'une foi qui n'est pas du tout atteinte ni pénétrée par le doute. Ça, de qui ça parle ici? Rabbana, innana sami'na munadiyan, c'est quand ça parle des croyants, dans sourate Ali Imran. ولما كان هذا الإيمان من أعظم ما يقرب العبد إلى الله ومن أعظم الوسائل التي يحبها الله توسلوا بإيمانهم أن يكفر عنهم السيئات وينيلهم المطالب العاليات فقالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Donc comme la foi c'est la chose qui rapproche le plus l'être humain d'Allah, et c'est le plus grand moyen qui ramène à ce qu'Allah aime, alors tawassalu, c'est-à-dire ils ont pris cette foi qu'ils ont pour se rapprocher d'Allah, et comme un prétexte pour demander à Allah, qu'il leur pardonne leurs péchés, et qu'il leur donne ce que les gens veulent le plus. Donc ils ont dit, donc toujours dans les mêmes versets, « Oh Allah, nous avons entendu quelqu'un qui appelle à la foi » et qui nous a dit « Croyez en votre Seigneur » et donc nous avons eu la foi. Et regardez tout de suite après qu'est-ce qu'ils disent. « Oh Allah, pardonne-nous » et « Farfir lana » c'est comme s'ils disaient « Donc pardonne-nous » c'est-à-dire que c'est rattaché à la phrase d'avant. Ils ont dit « Fa'amanna » nous avons eu la foi, « Farfir lana » donc pardonne-nous. Donc c'est-à-dire ils prennent comme argument leur foi pour demander à Allah le pardon. Donc pardonne-nous nos péchés et efface nos fautes et fais-nous mourir avec les gens pieux. C'est-à-dire, il leur demande de mourir sur la meilleure des morts. وَلِهَذَا كَانَ الرَّجُلُ الْمُنْصِفُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِرَادَةٌ إِلَّا اتِّبَاعَ الْحَقِّ مُجَرَّدَ مَا يَرَاهُ وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ يَتَبَادَرُ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا يَرْتَابُ فِي رِسَالَتِهِ بَلْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ مُجَرَّدٌ مَا يَرَى مِنْ وَجْهِ الْكَرِيمِ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ. Il dit c'est pour ça qu'un homme juste et équitable, c'est-à-dire un homme honnête, qui n'a pas d'autre souhait que de suivre la vérité, dès qu'il voit ou qu'il entend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite il y croit. Et il croit et il a foi en ce messager sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a aucun doute quant à son message. Et même beaucoup de gens à son époque, par le simple fait qu'ils l'ont vu, et ils ont vu son visage, ils ont su que ça c'était pas le visage d'un menteur. Comme il a dit Abdullah ibn Salam, qui était un des rabbins des juifs à Médine, et quand il a dit, quand il a vu le prophète, il a dit Araftu annahu laysa wajha kadhab. Il dit j'ai su que ça c'est pas le visage d'un menteur. Donc ça c'est juste en regardant son visage. Alors qu'en est-il s'il suit sa sunna, etc. Wa qila li ba'dihim lima badarta ila al-iman bi Muhammad qabla an ta'rifa risalatahu fa qala ma amara bi shay fa qala al-aql laytahu naha an ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته امر به. Il dit, et certains d'entre eux, c'est-à-dire il dit, on a posé la question à certaines personnes en disant pourquoi tu t'es dépêché de croire à Mohammed alors que tu ne connais même pas son message. Il a dit parce que il n'a rien ordonné dont la raison va dire si seulement il l'avait interdit. Il n'a rien interdit dont la raison va dire si seulement il l'avait ordonné, c'est-à-dire tout ce qu'il ordonne ou il interdit, la raison, elle sait que c'est saint, c'est-à-dire ça aurait dû être interdit, ou alors ça aurait dû être ordonné. فاستدل هذا العاقل الموفق بحسن شريعته وموافقتها للعقول الصحيحة على رسالته فبادر إلى الإيمان به. Donc cette personne dotée de raison, qui a eu le muwaffaq, c'est-à-dire à qui Allah a donné la facilité et le succès, a argumenté par l'aspect bénéfique et le bon aspect de la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait qu'elle est en accord avec la raison saine, il a pris ça comme argument pour prouver la véracité du prophète, du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il s'est dépêché d'y croire. ولهذا استدل ملك الروم هرقل لما وصف له ما جاء به الرسول وما كان يأمر به وما ينهى عنه استدل بذلك أنه أعظم الرسل واعترف بذلك اعترافا جليا ولكن منعته الرياسة وخشية زوال ملكه من اتباعه كما منع كثيرا ممن اتضح له أنه رسول الله حقا. C'est pour ça aussi que le dirigeant de Rome, c'est-à-dire les Byzantins, l'Empire romain oriental, qu'on appelait Héracle, quand on lui a parlé du prophète, donc ça on le trouve dans quoi ? Pour celui qui veut retourner à l'histoire complète, au tout début de Sahih al-Bukhari, dans les premiers hadiths, c'est un très long hadith, quand on lui a mentionné le message du prophète, on lui a décrit le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce à quoi il appelle et ce qu'il interdit, donc notamment c'est quand il a demandé à Abu Sufyan, qui était un des grands ennemis du prophète à ce moment-là, même s'il s'est converti par la suite, radiallahu anhu, il lui a demandé à quoi est-ce qu'il vous appelle et qu'est-ce qu'il vous interdit. La première chose qu'il a dit, c'est quoi ? Il n'a pas dit il nous appelle à prier, il a dit il nous appelle à adorer Allah et à délaisser les autres divinités. Et aussi à accomplir la salat, à donner et à ne pas couper les relations parentales et à ne pas commettre la fornication. C'est-à-dire il a cité les grands ordres et les grands interdits qui étaient au début de l'islam. Donc quand il a entendu ça, il a pris ça pour prouver, c'est-à-dire il en a compris, que c'était le plus grand des messagers et il l'a reconnu sans aucun doute. C'est-à-dire il l'a reconnu clairement que c'était le plus grand des messagers. Mais ne l'a empêché que l'amour d'être le chef et l'amour du commandement, ça l'a empêché de croire. C'est-à-dire il croit, dans le sens français du terme, il croit, il croit au prophète et il sait qu'il est un prophète, mais est-ce qu'il a eu l'iman ? Donc pour bien différencier entre croire, c'est-à-dire il iman. Il a cru, il croit que c'est vrai, il croit que c'est un prophète, et pourtant, ça n'a pas fait de lui un mu'min. Pourquoi il n'est pas devenu mu'min ? Il n'a pas voulu se convertir et suivre, parce que, pour de crainte de perdre son royaume, de perdre tout ce qu'il possédait, et par amour d'être le chef. De crainte de perdre tout ça, il n'a pas voulu suivre. Comme c'est arrivé à beaucoup de gens, qui ont connu et qui ont reconnu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad était bien envoyé d'Allah. Et il dit, et ça fait partie des plus grandes choses qui empêchent la foi dans ce genre de personnes. C'est-à-dire le fait d'aimer, d'être le chef, d'aimer le commandement, d'aimer le fait d'avoir beaucoup de biens, etc. وأما أهل البصائر والعقول الصحيحة فإنهم يرون هذه الموانع والرياسات والشبهات والشهوات تضمحل ولا يرون لها قيمة حتى يعارض بها الحق الصحيح النافع والمثمر للسعادة عاجلا وآجلا. Il dit, quant aux gens clairvoyants et aux gens qui sont dotés d'une raison saine, ceux-là, ils ne voient pas tous ces obstacles et le fait d'être le chef et tous ces doutes et toutes ces ambiguïtés et tous ces désirs mondains, et tout ça, en ce qui concerne les gens qui sont dotés de raison et de clairvoyance, ça s'efface et ça s'épuise, parce qu'ils ne voient pas que ça mérite de contredire la vérité claire. La vérité claire est qui bénéficie à la personne le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. ولهذا السبب الأعظم كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة والمعتنون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيمانا ويقينا من غيرهم وأحسن عملا في الغالب. Il dit, c'est pour ça, pour cette grande cause, que ceux qui donnent importance au Coran, c'est-à-dire dans sa mémorisation et dans sa connaissance, donc retenez bien qu'il ne dit pas ici seulement dans sa mémorisation, il dit bien dans sa mémorisation et sa connaissance, parce que combien on voit de gens, ils mémorisent le Coran, mais malheureusement, ils ne le mettent pas en application. Il dit bien dans sa mémorisation, il donne importance à la mémorisation du Coran et à sa connaissance, c'est-à-dire la connaissance de sa signification. Et ceux qui prêtent importance au hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qui ont la plus grande foi et la plus grande certitude, et qui ont les meilleurs actes en général. Et ça me rappelle donc une parole de Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, il disait « Ra'aytu ad-dina 'inda ahli al-hadith » والكلام عند المعتزلة. Il dit, j'ai vu la religion chez les gens du hadith et j'ai vu la spéculation faite de parler chez les Mu'tazila. C'est-à-dire, ça c'est une attestation, un témoignage d'un grand imam, Abdullah ibn Mubarak, qui était un grand imam de la génération de Tabi'in, d'après les Tabi'in. C'est un grand témoignage de sa part pour le mérite d'Ahl Hadith, puisqu'il a dit, j'ai vu la religion chez les gens du hadith. Et comment ça pourrait en être autrement, puisque ce sont les gens qui suivent et qui s'accrochent aux traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون. Donc parmi aussi les causes de la foi et qui renforcent la foi, le fait de réfléchir sur l'univers, al-kawn.
في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة والنظر في الإنسان وما هو عليه من الصفات فإن ذلك داع قوي للإيمان.
Il dit dans la création des cieux et de la terre et de, dans tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, parmi les créatures, selon toutes leurs catégories différentes, et le fait de réfléchir sur l'être humain et les caractéristiques de l'être humain, tout ça, ça appelle à la foi.
لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب الدال على سعة علم الله وشمول حكمته.
Puisque dans toutes ces créatures qui existent, on voit la grandeur de la création d'Allah, qui montre la capacité d'Allah et qui est leur créateur, et qui montre la grandeur d'Allah. Et quand on regarde aussi Al-Husn, c'est-à-dire la beauté de toutes ces créatures, et Al-Intivam, c'est-à-dire comment toute cette création est organisée, et Al-Ihkam, c'est-à-dire comment tout ça est fait de façon parfaite. Tout ça sont des choses, la beauté, la perfection et l'organisation qui bouleversent les raisons, qui bouleversent l'intelligence, et qui montrent la grandeur de la science d'Allah et de sa sagesse.
وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى الدالة على سعة رحمة الله ووجوده وجوده وبره وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره وإخلاص الدين له وهذا هو روح الإيمان وسره.
Et aussi quand on regarde toutes les différentes choses utiles et tous les bienfaits qu'on ne peut même pas décompter, qu'il y a dans la création d'Allah, et qui montre la grande miséricorde d'Allah, et sa générosité, et sa bienfaisance envers sa création. Tout ça, ça nous amène à vénérer celui qui a inventé tout ça et qui a créé tout ça. Et ça nous amène à être reconnaissant envers lui, et à tout le temps, à l'ahjou bidhikri, c'est-à-dire à tout le temps le rappeler dans nos paroles, et à lui vouer sincèrement notre culte et notre religion. Et ça, c'est l'esprit même et le secret de la foi.
وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه وأنها لا تستغني عنه طرفة عين خصوصا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار.
Aussi le fait de regarder الفقر. الفقر en arabe ça ne veut pas simplement dire la pauvreté, ça exprime aussi le besoin, c'est-à-dire le besoin qu'ont les créatures vis-à-vis d'Allah, et comment elles sont contraintes de retourner vers Allah, de tout aspect, et comment elles ne se passent pas de lui pendant même un clin d'œil. Surtout, dans ce sujet, tu le vois en toi-même. Tout ça, ça montre le besoin que les créatures ont envers leur créateur, et ça, ça renforce aussi la foi.
وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه ودفع ما يضرهم في دينه ودنياه.
Tout ça, ça amène la personne à s'humilier complètement devant Allah et à l'invoquer beaucoup et à se soumettre et s'humilier devant lui et à lui demander tout ce dont on a besoin qui nous est utile dans notre religion et dans notre vie d'ici-bas. Et à lui demander de repousser de nous tout ce qui est mauvais pour nous dans notre religion et dans notre vie d'ici-bas.
ويوجب له قوة التوكل على ربه وكلام الثقة بوعده وشدة الطمع في بره وإحسانه.
Et ça amène aussi la personne à avoir une forte confiance en son Seigneur et à avoir une complète confiance dans sa promesse et une grande espérance dans sa bienfaisance.
وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى التعبد. فإن الدعاء مخ العبادة وخالصها.
Et avec tout ça, donc la foi se concrétise et التعبد, c'est-à-dire l'adoration de la personne se renforce, puisque الدعاء, l'invocation, c'est la pulpe de l'adoration.
Donc on va s'arrêter là, on reprendra après le Maghrib, inshallah.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.